Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, personnellement, j'apprécie les hommes et les femmes qui ne vont pas où souffle le vent. Lorsque j'en croise, j'aime bien donc leur donner la parole, les écouter et essayer de les faire connaître. Ils sont pléthores, mais évidemment, on ne les rencontre pas sur les médias mainstream, à la solde des Bouygues, Drahi, Lagardère, Niel, Arnault et autres esclavagistes de la finance. Médias mainstream qui sont à l'information ce que McDonald's est à la gastronomie. Donc l'interview de Radio Saint-Aff vous propose un rendez-vous avec la sincérité, du moins je l'espère, avec des personnes qui parlent avec leur cœur et qui exercent leur talent dans des domaines multiples et variés de l'écologie, la science, la politique, la médecine ou encore la culture. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène un petit peu au nord, dans la Narse de Nouvial, située dans le Cantal. Une zone humide de 400 hectares en plein cœur de la planèse de Saint-Flour. Un site remarquable, classé Natura 2000, qui suscite les appétits féroces de deux multinationales qui veulent le transformer en carrière à ciel ouvert. Pourquoi ? Car le sous-sol serait la plus grande réserve européenne de diatomite, un minerai très convoité. Voilà, je vous propose une visite guidée en compagnie d'Anthony Marc, un des membres du collectif de la Narse de Nouvial, qui va donc nous expliquer tous les enjeux de ce projet ubuesque. Alors, bonjour Anthony.
Bonjour.
Alors, on va parler aujourd'hui de la Narse de Nouvial. Est-ce que tu peux nous situer la Narse de Nouvial qui est dans le Cantal et parler de la problématique à laquelle est soumise la zone ?
Alors, la Narse de Nouvial, déjà Narse en patois de chez nous, ça veut dire zone humide, ça veut dire une sagne, ça veut dire une tourbière. Et donc Nouvial, c'est le village qui est juste à côté, le lieu-dit qui est juste à côté. Donc ça se situe sur la planèse de Saint-Flour, donc qui est un grand plateau d'altitude. On a à peu près entre 900 et 1000 mètres d'altitude. Donc on est au cœur du département du Cantal et sur une ancienne zone volcanique. Et donc cette zone humide qui fait à peu près 400 hectares voilà, se situe en plein cœur du Cantal et est aujourd'hui menacée par un projet de mine à ciel ouvert de carrière.
C'est un projet qui date de quand ? Parce que j'ai vu sur les coupures de presse que ça remonte déjà à 1995.
Alors, la découverte du gisement a été faite en 1986 et les premières velléités de carrière, ça date effectivement de 1995. Il y a eu différentes périodes de mise en avant de ce projet et puis après d'abandon. Et puis là, donc, on est dans une phase où le projet revient sur le devant de la scène.
Est-ce qu'il y a une raison spécifique pour laquelle il revient actuellement sur le devant de la scène ?
Alors, en fait, il y a deux usines qui exploitent aujourd'hui une mine qui est à quelques dizaines de kilomètres à vol d'oiseau de la Narse de Nouvial. Et cette carrière va arriver à la fin de sa vie. Et dans les prochains mois, dans les prochaines années, on n'a pas forcément d'informations précises sur ce sujet. Mais voilà, donc la fin de cette carrière veut dire pour les entreprises qui les deux multinationales qui exploitent ce lieu, veut dire l'ouverture d'une nouvelle carrière pour continuer leur existence.
D'accord. Il serait peut-être intéressant d'expliquer ce qu'est le matériau qui va être exploité. C'est la diatonite, si je ne m'abuse. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert ce matériau et quels sont les enjeux justement économiques par rapport à ce matériau ?
Alors, tout à fait. Je parlais tout à l'heure de l'origine volcanique du lieu. La diatomite, ça s'est créé dans un ancien lac de volcan. Un ancien lac de lave dû à l'origine volcanique il y a plusieurs millions d'années. Et en fait, c'est une algue unicellulaire dont la coquille est en silice. Qui s'est déposé au fond de ce lac, a sédimenté, s'est fossilisé, et aujourd'hui il ne reste plus que cette ancienne coquille de cette petite algue, riche en silice, qui est aujourd'hui compactée et qui est sous forme de roche. Et donc c'est cette silice que les entreprises vont chercher. sur cette roche qu'on appelle la diatomite. Donc c'est un minerai qui est très rare, on peut le dire, puisqu'il n'y a actuellement que 2 gisements en France. Il y en a un en Ardèche et celui qui est actuellement exploité dans le Cantal. Et donc, du coup, c'est ce minerai qui intéresse les deux entreprises.
Et à quoi sert ce minerai ?
Alors, il est utilisé aujourd'hui pour principalement la filtration, soit du vin, de la bière, des jus de fruits, donc principalement une filtration à des fins alimentaires, mais les entreprises ont cherché de nouveaux débouchés et donc maintenant ils l'utilisent pour un peu un peu tout et n'importe quoi. En tout cas, il y a une profusion de débouchés dans différentes, que ce soit les cosmétiques, que ce soit la santé, mais à 90% c'est sur les filtrations alimentaires.
Alors une question peut-être bateau, mais est-ce qu'il n'y a pas des alternatives à ce minerai ?
C'est une vaste question dont on pourrait débattre assez longtemps. Les géologues qui sont spécialistes un peu de ces questions ont listé 18 substances qui pourraient se substituer à la diatomite pour les usages à la fois de filtration alimentaire, à la fois pour les usages de santé. Je ne les connais pas par cœur parce que c'est des termes scientifiques, mais en attendant, il y a 18 substances qui existent et qui pourraient servir pour remplacer la diatomite. Sauf qu'elles ont un coût plus élevé de production et en tout cas d'utilisation. Et donc, pour une question de rentabilité économique et financière de ces entreprises-là, ils choisissent la diatomite qui est plus facilement exploitable. Après, c'est là où ça devient plus compliqué, c'est que, en fait, il y aurait un vrai sujet de société. La diatomite, aujourd'hui, elle sert à filtrer du vin, de la bière, des jus de fruits, ce que je listais précédemment. Et sauf que ça pose la question de a-t-on besoin de filtrer le vin, la bière, les jus de fruits et toutes ces questions-là. Pour produire un vin ou des boissons industrielles, probablement que oui, puisque ça permet de stabiliser le produit et à cette échelle-là, probablement qu'il faille utiliser une filtration, diatomite ou autre. Mais pour une production artisanale, par exemple, comme on voit fleurir aujourd'hui un peu partout les brasseries artisanales, on a plusieurs brasseries dans le Cantal aussi qui s'ouvrent et qui se créent et qui créent de l'emploi et qui créent de la richesse locale et qui n'utilisent pas du coup de filtration, de système de filtrage, que ce soit diatomite ou autre. Donc en fait, ça pose la question de a-t-on besoin, je pense qu'on devrait pouvoir se poser cette question, a-t-on besoin de filtrer nos produits alimentaires, nos boissons
Comme a-t-on besoin de rajouter des nanoparticules dans le sucre et le sel, par exemple ?
Exactement. C'est le projet de société que je pense aujourd'hui on est en droit de se poser, puisque aujourd'hui, continuer dans la filtration de ce type-là, ça va engendrer la destruction d'un habitat naturel majeur en Auvergne. Donc aujourd'hui, puis on le voit, je pense que c'est un sujet d'actualité, est-on prêt à remettre un petit peu en cause nos habitudes et nos pratiques ? Et donc là, je parle des usages alimentaires de nos boissons. Est-ce qu'on serait prêt à remettre en cause un petit peu ça pour préserver l'environnement ? Parce que le sujet, il est là aujourd'hui.
Est-ce que tu peux nous présenter les deux entreprises qui exploitent ce minerai ?
Rapidement, parce que c'est un sujet assez complexe que je ne maîtrise pas bout des doigts, mais il s'agit de deux multinationales, donc Chemviron et Imerys, qui sont deux entreprises multinationales qui sont détenues par des branches dans différents pays dont on a peine à comprendre les ramifications et l'origine de ces entreprises et qui détient qui. Mais elles sont implantées, en tout cas sur le département du Cantal, depuis de très nombreuses années. Il y avait d'autres entreprises qui les précédaient, mais en tout cas ce gisement-là est exploité depuis très longtemps. Et concernant les deux entreprises, voilà, elles ont différentes branches. Pour Imerys, c'est l'entreprise, donc c'est Imerys Filtration, c'est l'entreprise qui va arriver à bout du gisement le plus rapidement. Et donc, c'est cette entreprise qui souhaite aujourd'hui ouvrir cette carrière sur cette zone humide.
D'accord. Alors, il y a un truc qui m'étonnait un petit peu en lisant, je l'ai sur votre site. Hein. On voit que la NARS fait partie du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, qu'elle est classée en zone Natura 2000. Ma question bête, c'est comment est-ce qu'on peut ouvrir une carrière dans une zone classée Natura 2000 et dans un parc régional ?
C'est une bonne question. Faut poser la question à l'entreprise. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, on voit que les enjeux qui sont liés à l'exploitation de ce minerai sont majeurs, en tout cas sont considérés comme majeurs, et viennent écraser les autres enjeux qu'il peut y avoir. Donc, que ce soit les enjeux environnementaux via le système de protection Natura 2000 ou le parc naturel des volcans d'Auvergne, les enjeux économiques sont considérés comme supérieurs à ces enjeux environnementaux.
Donc, on s'assoit sur un classement si les enjeux économiques sont considérés comme fondamentaux.
Alors, pour nous, du point de vue du collectif, on espère bien faire valoir et démontrer que ces enjeux environnementaux, c'est pas juste des enjeux environnementaux, mais c'est aussi des enjeux pour nous et pour notre avenir à nous. Donc, on va essayer de se battre pour démontrer le contraire. Mais aujourd'hui, on craint que, effectivement, ces enjeux économiques supplantent les autres enjeux qui peuvent exister.
Alors, tu parles d'un collectif. Alors, quand est-ce qu'a été créé le collectif et quelles sont les personnes qui sont présentes dans ce collectif? Est-ce qu'il y a une grosse implication locale? Est-ce que ce sont des gens qui viennent un petit peu, comme on l'a pu voir sur Notre-Dame-des-Landes, des gens qui viennent un peu partout pour soutenir, enfin, pour protéger la zone?
Alors, pour le collectif à proprement parler, les premiers projets dataient de 95, et donc le premier collectif s'était déjà créé en 1995, avec une forte mobilisation locale à l'époque. Ils avaient réussi à repousser et à retarder l'ouverture de cette nouvelle carrière. Et comme je le disais, le projet de carrière était donc tombé un petit peu aux oubliettes. Et aujourd'hui, il a refait surface exactement à l'automne dernier, à l'automne 2020. Et donc, c'est à cette date-là où on a été un certain nombre d'habitants du territoire à se dire, si le projet ressort, il faut relancer le collectif. Donc, en mars 2021, donc il y a seulement quelques mois, on a recréé une association qui s'appelle Collectif pour la Narse de Nouvial et qui souhaite mobiliser, déjà qui souhaitait faire connaître ce projet, parce qu'il y avait beaucoup d'habitants du territoire qui n'en avaient pas connaissance ou qui pensaient que le projet était définitivement abandonné. Et donc c'était vraiment au début les actions du collectif, là depuis mars, ça a été vraiment de la sensibilisation des habitants au niveau local. Ensuite, on s'est attaché à essayer de mobiliser les gens. Et donc, on n'a absolument fait aucune communication nationale pour l'instant, parce qu'on souhaitait avoir une communication vraiment ciblée localement, pour que les habitants soient les premiers concernés et soient aussi les premiers impliqués. Donc on a pris notre bâton de pèlerin, on est allé faire du porte-à-porte dans tous les villages autour de la zone humide. La zone humide, ça fait à peu près 400 hectares, donc on a quand même pas mal de villages qui sont autour de ce lieu sur la planèse, là. Donc on est allé voir tous les habitants, les uns après les autres. À cause du Covid, on ne pouvait pas organiser de réunion publique, donc ça a été même plus efficace, puisqu'on a frappé à la porte des gens pour discuter avec eux. Dans la très grande majorité, ils soutiennent la démarche, et aujourd'hui, on peut afficher 500 adhérents au collectif, avec, sur les 500 adhérents, je dirais 90% d'adhérents qui sont habitants du territoire et qui sont habitants de la planèse. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une force de montrer que voilà, les locaux sont concernés par l'avenir de leur territoire et se mobilisent aussi pour arriver à défendre ce patrimoine naturel.
Ouais, alors une question peut-être supplémentaire qui me venait à l'esprit, c'est en général sur ce genre de projet, on assiste au classique chantage à l'emploi, puisque donc ce sont des entreprises qui vont être fermées. Est-ce que le collectif a des réponses par rapport à cette problématique ?
Alors, c'est un vrai enjeu. On est sur un territoire rural où l'emploi est quand même peu disponible. L'entreprise de Murat, aujourd'hui, c'est 35 à 40 salariés, d'après les estimations qu'on a eues. Donc, effectivement, c'est important. Et on prend le sujet, le collectif prend le sujet complètement au sérieux et est en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux salariés si l'usine venait à fermer. Si on protège la Narse de Nouvial, ce que je souhaite ardemment, c'est même on va protéger la Narse de Nouvial. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que l'usine risquerait de fermer ses portes. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer à ses salariés ? Où est-ce qu'on peut reconvertir l'usine pour autre chose ? Donc, le collectif n'est qu'au début de cette réflexion, mais c'est entouré d'élus locaux, d'habitants du territoire et accompagné par des spécialistes parisiens qui nous aident à travailler ces questions-là. Donc on est en train de proposer des alternatives économiques pour les salariés, pour pas qu'eux se retrouvent pénalisés et sur le carreau par une fermeture. Véritablement, ce qu'on voudrait essayer de réussir, c'est cette transition écologique que tout le monde appelle de ses voeux, c'est-à-dire à la fois protéger l'environnement, mais à la fois aussi permettre de reconvertir les emplois sur une activité durable et du coup garder une activité économique sur le territoire. Donc c'est vraiment un sujet que le collectif s'est pris à bras le corps et sur lequel il travaille. Il sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien, c'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour, à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce. Monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin, au fond d'une cour, à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, de monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien, à la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings
les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
Alors, une question qui me vient aussi à l'esprit, c'est quels sont les... Tu parlais d'enjeux environnementaux. Est-ce que vous avez listé un petit peu les enjeux environnementaux? Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de la situation?
Oui, tout à fait. Donc, je parlais tout à l'heure des enjeux économiques face aux enjeux environnementaux. Aujourd'hui, sur la zone, effectivement, certains voudraient réduire la lutte à ça, c'est-à-dire les enjeux économiques des entreprises, l'exploitation de la diatomite, pardon, face aux enjeux environnementaux qui sont les petits oiseaux qui seraient sur la zone humide. Le sujet est plus complexe que ça. Aujourd'hui, sur cette zone humide de 400 hectares, c'est effectivement une faune et une flore qui est extrêmement riche. On est sur une des zones humides les plus importantes d'Auvergne, donc, qui rassemble, on a listé 150 oiseaux qui passent ou qui nichent sur la zone. Il y en a à peu près une trentaine d'oiseaux nicheurs, dont certains qui sont très rares et qui sont en voie de disparition. Et donc, ils trouvent sur ce lieu un espace de nidification ou de repos lors de la migration vraiment très important. Donc, il y a effectivement tout cet enjeu-là. Et un enjeu sur les habitats avec de la flore, avec certaines espèces que l'on ne retrouve qu'ici. Donc, c'est effectivement des enjeux naturalistes qui sont forts. Mais il n'y a pas que ces enjeux naturalistes-là. Il y a aussi des enjeux économiques propres à la Narse de Nouvielle, puisqu'il y a des enjeux touristiques. Il y a énormément de gîtes, de chambres d'hôtes. Il y a un centre de loisirs qui est pas très loin. Il y a un aérodrome qui propose des survols en montgolfière ou ce genre de choses pour les touristes. Il y a un centre équestre. Enfin, il y a véritablement une activité touristique importante sur le lieu. Et puis j'oubliais le GR4 qui traverse la France de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique, qui passe sur la Narse de Nouvielle, qui borde la Narse de Nouvielle, avec donc forcément un attrait de randonneurs et de touristes qui passent à cet endroit-là. Donc on peut aisément supposer que si le lieu se transforme en carrière à ciel ouvert, le GR4 serait détourné, les gens qui profitent de la tranquillité des lieux ne viendraient plus. Donc, ça va forcément impacter le tourisme aussi. Donc, enjeu naturaliste, enjeu touristique, mais il y a aussi un enjeu, j'allais dire, primordial sur la ressource en eau. Parce que cette zone humide collecte les eaux du volcan cantalien, donc ça collecte les eaux de tout le bassin versant, et ça sert de rétention d'eau. Toutes les eaux qui sont déversées dans cette cuvette, en fait, il faut imaginer, voilà, vraiment une cuvette de 400 hectares qui collecte l'eau. L'hiver dernier, au printemps, là, juste avant le printemps, quand on a eu la fonte des neiges et de forts épisodes neigeux, on a vu un lac qui s'est formé de à peu près 50 hectares. Et en sous-sol, la diatomite, on le sait par les extractions, elle est gorgée à 70% d'eau. Donc, on peut imaginer que sur ces 400 hectares, le sol est gorgé d'eau. Et donc, ça sert de rétention d'eau, de rétention naturelle de l'eau pour la filtrer. On connaît l'intérêt de la filtration de ce matériau, de ce minerai, pardon. Et du coup, ça retient l'eau, ça la filtre et ça la rediffuse dans le bassin versant ensuite. Dans l'Ander, donc c'est la rivière locale qui s'écoule et qui traverse plusieurs localités, plusieurs villages que sont Rofiac, Saint-Flour, Saint-Georges, et donc des villages qui sont régulièrement impactés par des inondations. Et donc on peut craindre des inondations plus sévères en cas de disparition de cette zone tampon qui permet aujourd'hui de collecter l'eau. Donc voilà, il y a des enjeux autour de, bien sûr, des enjeux naturalistes, mais aussi des enjeux autour du tourisme, autour de la ressource en eau. Donc véritablement, c'est une zone qui est complexe. Il y a des enjeux aussi, il ne faut pas que je les oublie, autour de l'agriculture, puisqu'il y a 33 exploitants, 33 fermiers qui sont sur la Narse de Nouvielle, et qui ont au moins une parcelle, voire plusieurs, et qui laissent leurs troupeaux pâturer pendant l'été, parce que, comme c'est une zone tampon en eau, ça rediffuse régulièrement de l'eau tout l'été, et on a toujours un peu d'herbe qui peut être pâturée par les troupeaux. Donc, en période de sécheresse, c'est véritablement intéressant pour les éleveurs. Donc, il y a tous ces enjeux qui sont mêlés sur la narse de Nouvial et qui risquent de disparaître pour le profit de deux entreprises qui visent la ressource du sous-sol.
C'est amusant, enfin amusant, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est vraiment un modèle en termes d'enjeux climatiques, on est en plein dedans. Alors ça me fait penser, je ne sais pas si tu connais un certain Sébastien Moncor, entendez sur France Culture il y a quelques jours, et donc il plaidait pour la défense des milieux naturels, etc. Alors ce type est directeur du comité français de l'UICN. C'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors en l'écoutant, ça me faisait penser... Il y a encore un qui est payé pour masturber le mammouth. Ça va être intéressant de le contacter parce que ce qu'il décrit, c'est exactement ce que tu nous expliques, les enjeux climatiques au niveau des inondations. Donc là, il aurait peut-être un laboratoire en grandeur réelle pour ces théories. Bon, c'est une petite parenthèse, ça me faisait sourire. La question que je voulais te poser, c'est que je voyais sur le site du collectif qu'il y avait eu en 97, je crois qu'il y avait une action qui était envisagée par le parc naturel pour faire une préemption, ça en est où?
Sur l'acquisition des terrains, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les entreprises, dès qu'elles ont eu connaissance en 1986 du gisement de diatomite et de son importance en sous-sol, se sont mises à acheter des terrains. Donc sur les 400 hectares que représente la zone humide aujourd'hui, elles en possèdent une centaine. Ce qui fait qu'elles sont plus ou moins chez elles, même si elles doivent demander une autorisation pour exploiter le sous-sol, elles sont propriétaires. Aujourd'hui, ça fait déjà quelques années qu'il n'y a plus de parcelles qui se vendent. La majeure partie des parcelles dont je parle se sont vendues dans les années 90-95, quand les premiers projets de carrière ont vu le jour. Et aujourd'hui, pour ce qui est de la préemption ou de l'achat, il n'y a pas de parcelles en vente aujourd'hui, à ce moment-là, sur la narse de Nouvial.
Et à qui appartiennent les terrains, donc ?
Pour une centaine d'hectares, ils appartiennent aux entreprises des carrières, là, Imerys et Chemviron.
Qui leur a vendu ces terrains, ce sont des particuliers ?
Oui, c'est des propriétaires à l'époque. Il faut se mettre à la place des agriculteurs à l'époque, dans les années 90, où on n'avait pas cette conscience écologique comme on l'a aujourd'hui, où le métier était quand même assez compliqué, il l'est toujours d'ailleurs, il faut s'imaginer que ce sont des terres agricoles qui ne sont pas forcément les meilleures, parce que comme c'est une zone humide, on peut y mettre les troupeaux l'été pour les faire pâturer, parce que voilà, il y a un peu d'herbe et ça peut dépanner, mais on ne peut pas forcément y rentrer avec le tracteur. L'hiver, ça devient un lac, on ne peut plus y accéder. Donc, ce n'est pas forcément les meilleures terres. Et en tout cas, dans les années 90, ce n'était vraiment pas vu comme les meilleures terres. Et si on pouvait s'en débarrasser, on s'en débarrassait bien, bien facilement. Et on s'en débarrassait d'autant plus facilement quand les entreprises sont arrivées chez les agriculteurs en leur proposant le double, triple ou que sais-je du prix que valaient ces terres-là. Les paysans à l'époque se sont peut-être pas posé autant de questions, et je pense que moi personnellement j'aurais fait exactement comme eux aussi. Il faut se remettre dans le contexte dans les années 90. Et donc, c'est effectivement des agriculteurs qui ont vendu. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le contexte a changé, l'époque a changé. Et pour l'instant, il y a donc une centaine d'hectares qui appartiennent aux industriels. Et les 300 autres hectares appartiennent à des particuliers, à des agriculteurs qui détiennent ces terres. Et pour l'instant, voilà, les gardent en leur possession.
Je lisais également dans la presse sur un reportage de France 3, je crois que... Alors c'est Sandrine Perrault de Grèce, je ne sais pas comment on prononce, qui est directrice des opérations Imerys France. Alors elle s'exprime et elle dit « Notre objectif est d'exploiter de manière raisonnée, rationnelle et dans le respect de l'environnement. » Donc en termes de novlangue, ça me paraît un symbole. Qu'est-ce que tu dis en réaction à ce genre de propos ?
Eh bien, qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà, ça m'est impossible de répondre à ça, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire que de respect, de je sais plus, c'est d'exploiter de manière respectueuse. Imerys essaie de convaincre les habitants, les élus, les gens du coin que ouvrir une carrière en plein cœur de la zone humide va pouvoir être compatible avec la préservation de tous les enjeux que j'ai cités juste avant. Clairement, ça n'est pas possible. Eux prévoient d'artificialiser de mémoire une trentaine d'hectares. Si on accorde une autorisation à Imerys pour exploiter ces hectares-là, et en tout cas pour artificialiser ces sols, parce qu'il n'y a pas que le trou à proprement parler de la carrière, il y a aussi les routes d'accès, il y a aussi toute une partie, ils ont besoin, je crois, d'une dizaine d'hectares pour faire sécher la diatomite. Donc, en fait, tout se cumule et toutes ces zones-là, tous ces hectares-là seront artificialisés. Donc, ils seront perdus pour les enjeux que je citais. Et si on les autorise, eux, on sait qu'il y a Chemviron qui viendra aussi, à terme, exploiter la zone. Et donc, ça sera 30 à 40 hectares en plus. Donc, au total, ça sera une centaine d'hectares à l'endroit le plus riche de la Narse de Nouvial qui sera détruit. Donc, exploiter de manière responsable ou dans le respect de l'environnement ou je ne sais pas comment ils expliquent ça, ça n'est pas possible. D'autant que si on regarde ce qu'ils ont fait sur la carrière où ils sont actuellement, effectivement, ils commencent par exploiter 2-3 hectares qu'ils vont exploiter pendant 5 à 10 ans. Et puis après, hop, ils vont exploiter quelques hectares supplémentaires où ils demandent juste une autorisation d'extension de la carrière qui est beaucoup plus facilement accordée. Et donc, comme ça, petit à petit, aujourd'hui, sur la carrière où ils sont actuellement, il y a à peu près une bonne soixante-dizaine d'hectares qui sont exploités. Ensuite, Imerys propose de restaurer, en tout cas, ils disent qu'ils savent restaurer les carrières qu'ils ont ouvertes. Alors, deux choses. Sur la Narse de Nouvial, ils ont déjà prévu que ça ne serait pas possible de restaurer la Narse de Nouvial telle qu'elle, puisqu'ils ont prévu de creuser un trou qui serait entre 70 et 80 mètres de profondeur sur 10 hectares et demi. Ce qui fait un trou gigantesque. Et donc, ils ont déjà annoncé qu'ils ne pourraient pas le reboucher. Donc, ils en feraient un plan d'eau ou un lac ou quelque chose qui pourrait tout à fait être sympathique pour la planèse, mais n'aurait absolument pas les mêmes fonctionnalités qu'une zone humide. Et du coup, détruirait de manière durable les lieux. Et quand bien même ils pourraient imaginer essayer de restaurer, ce principe même de restauration des habitats naturels, ça me paraît très prétentieux, en sachant que c'est une activité volcanique sur des millions d'années qui a permis de constituer ces habitats naturels. Ça me paraît très prétentieux pour nous autres humains de dire qu'on est capable de recréer ces habitats-là.
Voilà, la prétention, c'est pas vraiment quelque chose qui les dérange. Mais c'est vrai qu'en termes de novlangue, je trouvais que c'était un bon exemple. Alors actuellement, tu parlais donc de la réactivation un petit peu de ce collectif, donc d'avoir frappé aux portes pour sensibiliser les gens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Comment on peut vous aider?
Alors, on a organisé dimanche dernier un rassemblement festif qu'on a appelé la fête de la Narse, pour essayer de mobiliser de manière, on va dire, conviviale, festive et en même temps ludique et pédagogique, pour faire découvrir aux habitants ce qu'était la Narse de Nouvial. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'habitants du territoire qui finalement ne connaissaient pas ou peu le patrimoine local. Donc on a organisé cette fête avec conférences, débats, stands pour les partenaires pour pouvoir présenter leurs activités, des randonnées découvertes sur la Narse de Nouvial pour pouvoir découvrir les richesses du site, des concerts, enfin voilà, il y avait un côté un peu festif, et ça a réuni sur une journée plus de 550 personnes. Donc pour nous, c'est déjà une vraie réussite. J'en profite du coup pour remercier aussi les bénévoles comme les participants, parce que cette mobilisation, ça montre que les gens sont quand même attachés à leur patrimoine local. Dans cette période de Covid, on pensait pas arriver à mobiliser autant, donc pour nous c'est une vraie satisfaction, et on va poursuivre des actions de ce type là pour faire connaître et pour montrer que voilà, la mobilisation, elle peut se faire sur un territoire rural comme le nôtre.
Et au niveau juridique, est-ce qu'il y a des recours possibles ?
Alors, pour l'instant, il n'y a aucun projet déposé officiellement ou aucune demande d'autorisation d'ouverture de carrière qui soit déposée officiellement en préfecture. En d'autres termes, officiellement, pour l'instant, il n'y a pas de projet de carrière. Les entreprises avaient fait le tour des conseils municipaux et conseils communautaires pour présenter leur projet. Mais officiellement, il n'est pas encore déposé à la préfecture. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de recours juridique à conduire. Ça le sera probablement dans les prochains mois. Et du coup, on est vigilant à ça. On sera effectivement... avec les membres du collectif, prêts à tout recours juridique ou à toute action légale, quelle qu'elle soit.
Et si le projet commençait à pointer à nouveau le bout de son nez, est-ce qu'il est soumis à une enquête d'utilité publique ?
Alors, le projet, vu l'ampleur qu'il a, va être soumis à une autorisation environnementale, donc une étude environnementale poussée, plus enquête publique, plus tout le processus habituel. Donc, ça sera autant de processus administratifs qui, nous permettront en tant que collectif d'agir ou de faire valoir soit l'opinion des membres de notre collectif, et puis d'être vigilant sur ce qui va se passer. Donc, pour l'instant, on n'est qu'au début de cette phase juridique qui va s'ouvrir dans les prochains mois.
D'accord, mais bon, c'est bien anticipé. On a eu un projet, enfin, ce n'est pas du tout un projet similaire sur le Larzac, mais je ne sais pas si tu as vu passer, on avait un projet sur le Larzac, qui était je ne sais plus combien de centaines d'hectares de panneaux photovoltaïques qui étaient implantés sur le Larzac, et justement qui a été, qui a du plomb dans l'aile et qui devrait pas, en principe, ne devrait pas voir le jour, suite justement à une enquête d'utilité publique avec, maintenant il y a un commissaire qui est nommé, etc. Donc il y a une phase de concertation apparemment assez importante. Donc c'est peut-être intéressant, effectivement, de prendre les devants pour anticiper ce genre d'action.
Alors on a eu quand même une première phase de concertation, ou en tout cas de mobilisation du public de ce type-là, puisque la communauté de communes de Saint-Flour et la communauté de communes de Haute-Terre, ont les deux communautés de communes réunies